Le grand témoin.
Bonjour et bon dimanche chez vous, grand témoin. Le plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui Isidore Bamanaï Kabeya. Il est directeur du centre éducation à la vie en Boujima depuis 1995. Monsieur Bamanaï, c'est un plaisir de vous recevoir dans ce studio de Radio Okapi pour parler de vous. Bonjour, vous allez bien?
Bonjour Kelly, je vais bien. Merci de m'avoir invité dans votre émission.
Ça fait plaisir, comme je l'ai dit aussi, de vous recevoir dans ce studio. On va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment. Je sais que ceux qui sont en Boujimaï en ce moment sont branchés pour nous suivre. Vous êtes une sorte de star en Boujimaï, Papa Bamanaï.
Ah, star, c'est trop dire. Mais par les activités pastorales que je suis en train de mener dans les diocèses de Mbujimaï, je suis assez connu dans toutes les paroisses de la ville de Mbujimaï et même en dehors de la ville.
Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va leur permettre de vous découvrir. Vous êtes dans l'éducation à la vie, c'est très important.
Oui, l'éducation à la vie c'est très important pour redonner à l'homme son image. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu, mais par son propre comportement, il a altéré cette image. Et l'éducation à la vie, depuis 1970 dans notre pays, s'emploie à remettre à l'homme son image, en passant par une formation intégrale, la formation du corps, du cœur et de l'esprit. Parce que dans notre pays, il y a certaines connaissances auxquelles on ne devait pas faire allusion publiquement, mais l'éducation à la vie a pris le courage d'introduire ces connaissances-là dans la population. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens sont satisfaits dans leur vie quotidienne, dans leur vie de groupe, dans leur vie de famille, sont très satisfaits des enseignements de l'éducation à la vie.
Alors, on va y revenir dans cette émission. On va faire d'abord un grand pas en arrière pour parler de votre enfance, Isidore Bamanaï. Vous êtes né à Chilumbu.
À Chilundu.
À Chilundu, voilà.
À Chilundu, êtes... qu'on appelait autrement Mérode avant. Quand les Blancs sont arrivés là, qu'ils ont construit la paroisse, il y avait parmi eux quelqu'un qui s'appelait Mérode, qui avait donné un peu plus de moyens pour que l'on puisse construire l'église. C'est ainsi que ce coin-là, on l'a appelé Mérode. C'est dans le territoire de Miabi, à 60 km. Miabi se trouve à 28-30 km de Mbujimaï. Et Chilundu se trouve à 60 km de Mbujimaï au sud de Mbujimaï.
Alors, donc, vous êtes né à Chilundu le 29 octobre 1953. Et c'est là où vous passez votre enfance? C'est là où vous grandissez?
Non. Je suis né là. Si j'ai des souvenirs de mon existence, c'est plutôt à Benamwadi, tout près de Kamiji, encore un peu plus loin de Mérode. Et j'avais environ 4-5 ans que mes parents étaient là. Mon père est enseignant, en même temps catéchète de l'église. Et c'est là que j'ai passé une partie de mon enfance, mais surtout depuis 1958, mon père, dans son travail, il avait été déplacé par les pères blancs qu'il utilisait comme catéchète. Et on l'a amené à Tijibat, un secteur de Bakwatembwe, toujours au sud de Mbujimaï. Et c'est vraiment là que j'ai passé mon enfance.
Et c'est là où vous avez obtenu votre certificat d'école primaire.
Oui, à l'épée Saint-Laurent. J'ai obtenu mon certificat d'école primaire. J'ai commencé les études première et deuxième dans l'axe de mon père. Et en deuxième...
Ça fait quoi d'être enseigné par son papa?
Ça fait terrible. Ça fait que il y a d'autres élèves qui se disent, attention, c'est le fils à notre enseignant. Il faut pas se jouer de lui. Il y a d'autres qui disent, bon, pourquoi est-ce que lui... il doit étudier avec nous dans cette classe, qu'est-ce qu'il croit? S'il croit que parce qu'il est le fils d'un enseignant, nous pouvons le cogner et on va voir ce qui peut se passer par après. Hein, ça soulève un peu de réaction comme ça parmi les collègues, mais j'étais élève comme tous les autres élèves, et curieusement, je termine la
pas
deuxième.
Pas favorisé par son papa? N'était pas favorisé
Pas du tout, pas du tout. Je termine la deuxième primaire. Mon père juge que j'étais encore très petit pour continuer en troisième, et il m'a retenu. Il dit, tu reprends la deuxième. parce que tu es encore tout petit. Alors j'ai repris la deuxième et par après, j'ai évolué dans les classes d'autres enseignants jusqu'à terminer en 1966.
Et vos études secondaires, c'est toujours à Tijiba ou vous les avez faites?
Les études secondaires à Tijiba, à ce moment-là, il n'y avait pas d'école secondaire. Je suis allé tout un bout d'homme là, je suis allé faire la première CO à Kamiji. Je suis allé là seul, avec les amis, je suis fait inscrire, j'ai passé les tests. Vous savez, à l'époque, nous avions l'habitude de bouffons. Les élèves qui sont dans la classe supérieure bouffonnent ceux qui viennent d'arriver. On vous dérange un tout petit peu, on vous tire les nez, les oreilles, on vous met à genoux, on vous dit roulez par terre. Et là, tout petit que j'étais, je ne faisais que pleurer. Et je me disais, comment je vais continuer dans ces conditions ici, comment je vais continuer à étudier. J'ai fait la première, comme là il n'y avait que la première, j'ai quitté Kamiji, je suis allé à Chilundu, où mon grand frère était déjà enseignant. Il avait fini ses études humanitaires et il a commencé à enseigner sous la demande de ma mère. Ma mère lui a dit, écoute, c'est bien que tu continues tes études, mais si tu vas à l'université, regarde derrière toi, est-ce que les autres là vont étudier? Ton père là bientôt il va aller à la retraite, c'est mieux que tu travailles un peu pour les encadrer. Et il a accepté, il a commencé à enseigner à Merod, et après ma première année CO à Tijiba, je suis allé habiter chez lui pour continuer les études secondaires.
Vous avez un diplôme d'État en pédagogie?
En pédagogie, option pédagogie générale. Je crois que nous sommes la deuxième génération du style examen d'État. Parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait le diplôme homologué, qui était livré par l'institut où l'élève avait étudié. Et en 71, l'État zaïrois à l'époque avait décidé que tous les finalistes présentent un test national. Nous sommes la deuxième année des examens d'État.
Alors après vos études secondaires, vous décidez de poursuivre vos études. Vous ne vous arrêtez pas au secondaire. Vous vous dites, on va aller à l'université.
On va aller à l'université. C'est encore mon grand frère qui m'a poussé.
Ah, parce que de vous-même, vous n'êtes pas tenté de continuer.
De moi-même, je me disais, je vais aller à Kamiji. J'avais commencé la première CO, demandé que je commence à enseigner. Parce que en 72, quand nous avons fini les examens, les résultats ont été publiés à la radio. Je crois la radio nationale. Et pour notre province, c'était école par école. Et pour notre école, comme mon nom commence par B, selon l'alphabet, j'étais numéro 1 quand on a commencé notre école. Et pour tous les villages de Tijiba, ils ont dit que j'étais sorti premier de cette école. Et je me rappelle que ce jour-là, c'est le premier jour où j'ai goûté à la bière. Les gens qui vivaient dans un bistrot, qui avaient suivi la publication des résultats à la radio, ils m'ont vu dire, hey, « toi là, viens ici, tu as grandi. »
Et
tu as honoré notre village. Oui, ils m'ont donné la bière. C'est le jour où j'ai pris mon premier verre de bière.
Et depuis, vous avez continué à
boire
la bière.
Écoutez, écoutez, oui, c'est vrai que quand on a l'occasion, on sirote un verre de bière. Mm-hmm. Et alors, mon grand frère ayant appris ça, il dit non, pas question, tu ne vas pas enseigner, parce qu'il était déjà à Mujumaï. Tu viens à Mujumaï, tu commences les études à l'ISP. Alors, je l'ai rejoint à Mujumaï. Et je me suis fait inscrire en dernier lieu, français histoire. J'ai fait le français histoire.
Vous aimez l'enseignement?
Beaucoup. Fils d'un enseignant, habitué à voir notre père enseigner en classe, enseigner pendant les cultes, ça nous a inspiré. J'aime beaucoup l'enseignement. Mm-hmm. Je crois que c'est tout ce que je sais faire dans la vie.
Enseigner.
Transmettre ce que j'ai.
Que vous connaissez.
Les petites choses que je connais. Les transmettre aux autres. Et quand vous voyez la joie que ça provoque chez les autres, alors je me sens vraiment heureux.
Isidore Mamana, vous avez également un master en doctrine sociale de l'Église que vous avez
obtenu
à Rome en 2000.
En 2000, oui.
Oui, c'est quoi doctrine sociale de l'Église?
Oui, la doctrine sociale
de
l'Église.
C'est un peu la théologie?
Non, c'est pas la théologie. La doctrine sociale de l'Église, c'est tout l'enseignement de l'Église catholique pour la promotion de la personne humaine. Ça prend alors tous les aspects de la personne humaine, l'économie, la politique, le social, la santé, ainsi de suite. Et ça, avec ce que j'étais avant animateur dans les paroisses, etc., j'y ai trouvé beaucoup de choses qui m'ont intéressé, qui ont rempli ma valise avec autant de choses.
Que vous transmettez aussi aujourd'hui.
Oui, absolument.
En 2006, vous faites des cours de management de projet.
Oui.
À Douala.
À Douala. J'ai fait les cours de management de projet à Douala. Nous sommes arrivés à Douala en octobre 2005 et nous sommes repartis en février 2006. Et là, nous sommes envoyés par le service central d'éducation à la vie. À Rome, c'était Monsieur Chubaon, à qui je rends hommage. Il est maintenant évêque émérite. Et en 2005, en octobre, le service central de l'éducation à la vie, qui se trouve sur Kabambare ici, m'envoie, avec d'autres collègues, m'envoie à Douala, à l'Institut panafricain pour le développement. Et là, nous avons fait et la formation des formateurs, mais aussi les management de projet.
Vous êtes marié, père de 7 enfants, Isidore Bamanaï.
Oui, je suis marié à une charmante femme. Elle s'appelle Jeanne Kasekimbalap.
On la salue en passant, Madame Bamanaï, bonjour.
Elle est infirmière, aujourd'hui elle est infirmière à l'hôpital Bonzola.
À Mbujimayi ?
À Mbujimayi, certainement. Nous sommes mariés en 1980. J'avais 27 ans.
36 ans de mariage aujourd'hui.
Oui, 36 ans de mariage aujourd'hui, jour pour jour.
Félicitations.
Merci Kelly. Merci. Et à mes côtés, c'est vraiment une pièce précieuse pour moi.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Isidore Bamanaï ?
Dans la vie, je n'aime pas le retard. J'aime faire chaque chose à son temps. J'aime respecter le rendez-vous. J'aime que quand quelqu'un me dit, tu arrives à 12 heures, j'arrive même 5 minutes avant. Je n'aime pas les gens qui vous disent, nous nous voyons à 16 heures, et vous l'attendez, il arrive chez vous à 17h30.
Vous aimez la ponctualité?
J'aime la ponctualité. C'est J'aime aussi la franchise. Je hais le mensonge, mais aussi j'aime être en paix avec moi-même et en paix avec les autres. Et j'espère que quand je vais mourir, l'État va me décorer pour dire héros national de la paix. J'aime tellement être en paix avec moi-même. Je sais que dans notre nature humaine, nous sommes déjà en conflit avec ma propre nature. Mais je fais tout pour être en paix avec moi-même.
Votre plat préféré?
Moi, je suis habitué à tout manger. Mais je préfère le bidia et avec bisebe biambouche.
La chèvre.
La peau de chèvre.
La peau de chèvre.
La peau de chèvre. Préparée simplement là à l'eau et à l'huile et avec les chiloabéni, les lumba-lumba, comme vous l'appelez en lingala, et les bidia. Ça, si j'ai ce plat-là, même si c'est mon ancien l'évêque qui me téléphone pendant que je suis en train de manger.
Vous ne décrochez pas.
Je regarde, je dis non, ça peut attendre. C'est coupé, non, ça peut attendre.
Alors, Isidore Bamanaï, parlons de votre parcours professionnel. Vous avez donné cours à Monéditou de 75 à 77, préfet au secteur d'orientation Mukwanga.
Mukwaya.
Oui. Mukwaya à Tijiba.
À Tijiba, oui.
À Tijiba, où vous avez étudié?
Oui, j'ai étudié à l'école primaire à Tijiba. Je rentre là comme préfet. Mes parents étaient encore là. Ils vivaient encore. Je me dis, oh, comme Dieu est grand. Il me retourne chez mes parents. Je vais encore voir ma mère. Comme ça, je travaille. Je peux lui rendre tout le bonheur pour le travail qu'elle avait fait pour nous. Et notre mère avait fait beaucoup de choses pour nous. Elle cultivait pour suppléer au maigre salaire de notre père. Et on ne manquait pas à manger.
Est-ce que c'est le plus beau souvenir que vous gardez de votre enfance?
Absolument. Là, c'est encore plus loin. Dans notre famille, nous étions en entente parfaite avec notre mère. On était tout autour d'elle. Et nous racontait des historiettes le soir, après avoir mangé. On pouvait jouer aux cartes avec elle. On pouvait blaguer et rire. Nous l'appelions même mon bouillotat. Et ça l'enchantait beaucoup. Mais nous la respections, nous l'aimions aussi beaucoup. Nous savions obéir à ses ordres. Quand elle est fâchée, on se rend compte qu'elle est fâchée. Elle nous a appris beaucoup de choses. Elle nous a appris la sobriété pendant que l'on mange. Et j'ai gardé ça jusqu'à cet âge. À tel point que chez moi, quand je mange, mes enfants savent que papa ne va pas tout terminer. Même si j'ai trouvé 5 frétins sur l'assiette, je mange 4 et je laisse un frétin. Et mes enfants le savent. Même mon épouse le sait aussi. Parfois, elle me réprimande, elle dit, mais vous ne voulez pas bien manger. Vous mangez le bidia seul, sans aliments. Et alors, on était toujours avec elle. Si elle est absente pendant longtemps, nous sommes tous dans l'émoi. Ma mère était volumineuse. Et quand elle marchait, il y avait un bruit qui se faisait à ses pieds. Et nous savions entendre que c'est elle qui arrive.
Uh-huh.
Alors là, on lui saute au cou. « Oh, maman est venue, maman est venue. » Et ce sont là vraiment des meilleurs souvenirs de mon enfance. Cette ambiance dans notre famille, avec notre mère. Notre père était un peu quelqu'un d'un peu timide. Il mange, il fume sa cigarette. Et s'il a quelque chose à nous dire, il le dit et il se retire. Mais tout le temps, on était
avec notre mère. Votre mère. Ouais. Alors, comment vous passez vos moments de détente, Isidore Bamanaé?
Mes moments de détente, j'aime le sport, particulièrement le foot.
Vous jouez au foot, hein?
J'ai joué au foot quand j'étais enfant, maintenant je ne sais plus jouer au foot. Quand j'ai le temps, je maille et que mon équipe d'ensemble les joue. Et je me fais le sacrifice d'aller au stade.
Alors parlons de musique, vous écoutez la musique?
J'écoute la musique congolaise. J'aime beaucoup. Je dors avec une radio au chevet du lit. Ça avait un sujet de discorde entre ma femme et moi. Parce que moi, la musique me berce jusqu'au moment où je vais dormir. Quand j'ai eu mon premier salaire, j'ai quitté Mouéni du tout. La première chose que j'ai achetée avec mon argent, c'est un tourne-disque en Mujumai, des piles et des disques. Et je suis rentré à Ditou le même jour. Et j'ai joué de la musique jusqu'au petit matin. J'ai transporté le tourne-disque au chevet de mon lit. Dès que les disques s'arrêtent, je remets jusqu'à m'endormir. Et même parfois, j'écoute la musique pendant que je dors. Je réalise que j'entends un disque tel pendant que je...
La musique congolaise, oui, vous aimez, mais de qui?
Vous voyez, les jeunes gens des Aïko, Langalangala, c'est un peu les jeunes gens de mon âge, les Nyokalongo et autres. C'est la musique que j'aime, la musique des Aïko. Mais aussi un peu la musique d'Empire Bakuba, du feu Yampaya.
Pepe Kale.
Et Pepe Kale, voilà. Mes deux là. Aujourd'hui, les jeunes gens chantent aussi bien. Quand j'écoute Jubin Piane, ça me réjouit aussi. Je me dis, tiens, il a beaucoup de talent. Il arrange bien sa musique. Mais particulièrement les Aïko et l'Empire Bakuba.
Voilà.
Ils n'existent plus malheureusement.
Les Aïko existent, hein?
Oui, les Aïko existent. Ouais. Les Aïko existent et fait danser toutes les générations.
Voilà. Alors, on va vous faire plaisir avec une petite mélodie de Aïko Langalanga. Ça va vous faire penser à votre jeunesse, j'imagine. J'espère que ça fera également plaisir à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. On se retrouve juste après cette pause musicale pour la suite de notre entretien.
Papa, not a De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Isidore Bamanaï Kabeya. Il est directeur du Centre éducation à la vie en Mbujimayi. Nous sommes là dans la province du Kasaï, Kasaï oriental, avec les découpages. Il faut que ça nous soit là. Nous sommes là dans la province du Kasaï oriental. Alors Isidore, vous êtes directeur de ce centre depuis 1995.
Oui, depuis 1995, le service central éducation à la vie avait organisé un séminaire qu'ils avaient appelé séminaire d'autonomisation des centres provinciaux. Et après, même avant, ils ont pu demander au diocèse de prendre des degrés pour mettre sur place une structure qui pouvait gérer les activités d'éducation à la vie. Et chez nous, en Mbujimayi, le choix est tombé sur moi et j'ai été nommé par Mgr Tshibangu, par décret épiscopal, directeur du centre d'éducation à la vie. Nous avons un comité de 4 personnes, une équipe de formateurs, environ une dizaine, et nous nous déployons sur terrain, sur le territoire du diocèse de Mbujimayi.
Et là, vous rencontrez les couples ou vous rencontrez tout le monde?
L'éducation à la vie concerne tout le monde. Nous formons les éducateurs dans le secteur scolaire, au primaire comme au secondaire. Et ils vont donner cours d'éducation à la vie dans les écoles. Et puis nous les suivons. Nous organisons des recyclages quand il le faut. Nous avons aussi dans le domaine pastoral, nous avons des couples, et particulièrement dans notre diocèse de Mbujimayi, sous notre initiative avec le centre pastoral, au moment où ce centre était dirigé par le Fait Abbé Achille Nzengu, il nous appela, il va nous dire, mais écoutez, les jeunes des Lumières là qui sont formés comme jeunes des Lumières, qui sont devenus des témoins dans la communauté et qui se sont mariés, il faudra faire quelque chose pour eux. Parce que ce qu'ils ont eu comme jeunes de lumière ne va pas beaucoup les aider dans le couple. Et alors, avec les autres initiateurs, nous avons pu mettre sur pied quelques enseignements pour eux et c'est parti. Et aujourd'hui, c'est devenu une très grande association dans notre diocèse qui s'appelle AJEMAC, Association des jeunes mariés chrétiens catholiques. Ils sont des milliers de jeunes couples qui se rencontrent dans leur paroisse et qui se retrouvent aussi au niveau du diocèse pour de grandes manifestations. Nous avons aussi pensé à former des encadreurs de jeunes pour qu'ils puissent un peu transmettre les matières d'éducation à la vie, particulièrement les valeurs humaines qui manquent à nos jeunes aujourd'hui, le respect, la courtoisie, l'humilité, la sincérité, le sens de responsabilité.
Est-ce que ça intéresse beaucoup les gens à Mbujimayi? Les gens sont réceptifs, ils viennent pour apprendre?
Au début, ça a été difficile. Parce que là-dedans, on y parle sexualité. Et notre population, c'est une
on
population...
On sait qu'à Mbujimayi, la sexualité, c'est quand même un sujet tabou.
Oui, c'est un sujet tabou. On ne devait pas en parler. Mais nous nous sommes employés sur terrain avec beaucoup de respect pour la pudeur de notre population, mais en disant nous ne pouvons pas ignorer notre sexualité, c'est nous-mêmes, et nous ne pouvons pas ignorer comment notre corps fonctionne. Même dans les parties des organes génitaux, nous devons en savoir quelque chose. Je donne un exemple. Vous voyez une petite fille, 11 ans, 12 ans, elle commence ses premières menstruations. Elle a besoin d'encadrement. Si elle n'est pas encadrée, si elle ne comprend pas réellement qu'est-ce qui se passe dans son organisme, elle va se poser elle-même des questions. Et si elle ne trouve pas de solution, elle va se mettre à haïr les règles. Et quand elle haït les règles, elle haït la féminité. Parce que les règles sont un signe par excellence de la féminité. Pour la fille, ça peut encore passer. Parce que le contact avec sa mère, ça peut passer. Mais écoutez, pour un garçon qui a eu une émission involontaire de sperme, et qu'entre lui et son père, il y a un pont, et puis il peut se dire, est-ce que je vais parler de ça à ma mère? Non, ça fait honte. Et à cause de la pudeur, il va se référer à des jeunes gens sur la rue. Et les jeunes gens, qu'est-ce qu'ils vont lui raconter? Ah, écoutez, tu as grandi. C'est maintenant qu'il faut tournoyer autour des jupes des filles. Et en ce moment-là, si les parents ne sont pas attentifs, et le garçon est perdu, c'est une cause de vol d'argent dans la maison. Parce qu'il faut avoir de l'argent pour satisfaire les filles derrière lesquelles on est en train de courir. C'est un sujet de tension entre parents et enfants. Si jamais le garçon est arrivé à connaître une femme, il se dit, mais alors, qu'est-ce que vous croyez? On n'avait plus tellement des ordres à me donner, j'ai grandi, non? Et alors, petit à petit, je crois que les gens ont commencé à croire que oui, c'était intéressant.
Et donc, vous aidez les gens, les familles, les couples, les jeunes, les vieux, à comprendre certains phénomènes de la vie.
Exact.
À briser les barrières sur certains sujets.
Par exemple, vous vous rendez compte, quand une femme arrive à la ménopause, il y a autant de choses qui se passent dans son organisme. Si elle-même n'est pas au courant, elle va croire que c'est extraordinaire ce qui lui arrive. Si son mari aussi ne connaît pas qu'à la ménopause, il y a telle chose qui se passe, il va se dire, mais ma femme ici, je ne la comprends plus. Elle n'était pas comme ça. Il y a des sorciers, il y a des mauvais sorts qu'on lui a jetés. Et même parfois, ça peut provoquer un divorce. Je sais qu'un voisin de formation médicale, et heureusement, il m'avait dit, je ne reconnais plus ma femme. Elle est devenue têtue, elle parle beaucoup. Quand vous lui envoyez quelque chose, elle oublie, elle revient, vous lui envoyez, demander de l'eau, elle revient avec le chapeau, et tu m'as envoyé le chapeau. Il dit, je vais chasser cette femme. Je dis, tiens, ta femme a quel âge? Il me dit l'âge de la femme. Je lui dis, est-ce que tu ne penses pas que c'est le début de la ménopause? Il se prend la tête entre les deux mains. Il dit, ah, ce n'est pas possible. C'est un blanc-bec dans le domaine qui vient réveiller mon esprit. Je sais, je connais les histoires de la ménopause. Moi, je dis oui, mais quand il s'agit de ta propre femme, tu n'as pas eu les yeux pour voir. Moi, je viens vous ouvrir les yeux. Laissez-la tranquille. Tu verras qu'après un moment, ça va passer.
Et depuis que vous êtes à la tête de ce centre, depuis 1995, ça fait 21 ans aujourd'hui,
oui.
Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés avec certaines personnes qui viennent au centre?
Des difficultés, non.
Avec la coutume, par exemple?
Non.
On tient beaucoup à la coutume?
Oui, on tient beaucoup à la coutume. Au début, quand même, j'ai commencé les émissions avec ces matières-là sur la RTF. J'ai eu même des menaces, des lettres de menaces. Et on va vous accuser au parquet. Vous ne pouvez pas parler de... J'ai eu des menaces dans les écoles primaires Miba. Vous venez réveiller le chat qui dort. Je suis allé là pour dire aux parents que le chat ne dort pas. Le chat est déjà réveillé naturellement. Ce qu'il faut, c'est seulement l'encadrer. Et alors, les gens ont compris. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de difficultés de ce côté-là. La matière est acceptée par tout le monde. Et même, on voudrait qu'on ajoute des détails. Hein? Mais les détails, nous ne pouvons pas les donner en public. Quand quelqu'un a son cas, ils viennent voir à côté, on explique, et les gens comprennent. Nous avons sauvé un couple à Mbujimayi, où la femme avait un cycle très court, de 19 jours. Et que l'ovulation pour cette femme s'est passée pendant la menstruation. Et que chez nous, la menstruation, c'est une impureté. La femme ne doit pas préparer, elle ne doit pas se coucher sur le lit, elle doit se mettre à l'écart. Nous avons étudié la chose avec le couple et nous avons dit à l'homme, si vous voulez avoir un enfant, allez-y pendant que la femme a la menstruation. Il dit, mais vous êtes des fous. Il dit, mais ta femme a un cycle très court, 19. C'est-à-dire, elle a son ovulation au 5e jour. Oh, tu dis qu'elle a 5 jours de règles ou même 6. Donc, si vous n'y allez pas, vous n'aurez jamais d'enfant. Parce que l'ovulation aura passé. Il dit, c'est vrai. On lui a expliqué. On l'a encouragé. Ils sont allés. Et puis, la femme a eu sa grossesse et la femme a mis au monde. Vous voyez, sauver des situations comme ça, c'est merveilleux. C'est formidable. Mm-hmm. Hein? C'est formidable.
Vous avez été récompensé déjà par rapport au travail que vous faites, que vous abattez pour toute cette population de Mbujimayi et même d'ailleurs.
Oui. J'ai déjà été récompensé plusieurs fois par les résultats que nous atteignons. C'est la seule récompense que nous, éducateurs, nous avons. Si vous intervenez dans un couple et que le couple retrouve l'équilibre, c'est une récompense pour nous. Nous y retirons beaucoup de joie pour nous. Et la GEMAC, là, quand nous avons eu avec eux l'atelier sur la planification familiale, où on a dit on ne planifie pas seulement les naissances, on planifie tout ce qu'on fait. On réfléchit ensemble, on a un projet pour la famille, on l'exécute ensemble. Il y a des gens qui avaient des activités économiques, la femme a ses activités, l'homme a ses activités. Et parfois, l'homme son argent c'est pour ce projet à lui, la femme son argent c'est pour nourrir les enfants et peut-être payer les frais scolaires. Quand ils ont compris ça et qu'ils ont fusionné leur activité économique, ils se sont rendus compte qu'ils ont eu plus de bénéfices qu'avant. Ils ont géré autrement qu'avant, ils ont excellé, ils ont acheté des parcelles, et désormais ils se disent, oh mais c'est merveilleux ça, ce que nous avons appris ici c'est merveilleux. Voilà notre récompense. Mais de temps en temps, le service central ici prenait l'avion, venait, nous avons atelier. Bon, monter dans l'avion c'est toujours un plaisir, surtout quand vous n'avez même pas donné un sou. Vous montez dans l'avion, vous arrivez ici, on vous loge, on vous nourrit, on vous retourne chez vous. Parfois on vous dit, bon, prenez $50, vous allez acheter du savon pour vos enfants. C'est une récompense.
Vous avez une grande expérience dans ce domaine?
Je crois, oui. Je crois que j'ai une expérience. Ce qui fait que quand nous sommes devant des problèmes, c'est grâce aussi aux autres formations que j'ai faites. La pastorale des familles, l'animation spirituelle des groupes, même la formation éducation à la vie, la formation des formateurs, j'ai fait la formation des compétences de vie courante. Tout ça, nous sommes suffisamment outillés. Et tout le travail que nous avons sur terrain, et tous les cas que nous rencontrons et auxquels nous réfléchissons ensemble pour pouvoir donner des solutions, je crois que ça nous a donné une grande expérience et que nous pouvons aborder notre matière de manière très aisée.
Ouais. Alors, Isidore Bamanae, vous avez fait aussi un peu de politique.
Ah oui. Notre église nous encourage à nous occuper de la politique. Parce qu'elle dit, si vous vous occupez de la politique s'occupe de vous. Et notre église nous dit, si vous, les laïcs chrétiens, vous n'êtes pas engagés dans ce domaine-là, comment est-ce que vous allez faire entendre l'écho de l'évangile dans l'esprit de ceux qui décident. Sinon, vous leur laissez la place, ils vont décider pour nous, ils vont décider tel qu'ils vont décider là, mais vous qui avez la conscience formée, engagez-vous, allez de l'avant. Nous, nous pouvons vous soutenir.
Et c'est comme ça qu'en 2006, vous vous êtes présenté à la députation provinciale, à Mbujimayi.
Oui, presque poussé par la population.
Poussé par la population, comment ça?
Oui, je revenais de Douala. En 2006, c'était l'année électorale. Et à gauche, à droite, les amis, les voisins me disent, écoute, Bailly, bon, Bailly c'est mon petit nom, hein?
Mm-hmm.
Bamanaï Isidore. Bailly, tu es assez connu ici à Mbujimayi. Si tu postules, nous allons te soutenir. Nous sommes sûrs que tu vas passer. Dans mon église, la même chose. Jusqu'au vicaire général. Il me voit sur la route, il dit, mais pour les élections qui arrivent là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu vas postuler? Je lui dis, écoute, je ne sais pas encore. Bon, il dit, bon, mais quand vous aurez décidé de vous engager, venez nous en parler. Et même notre diocèse de Mbujimayi, les clergés se sont réunis pour dire quels sont les laïcs engagés que nous pouvons pousser à s'engager dans la politique. Et on a cité mon nom en premier lieu. Eh bien alors, en regardant tout ça, je me dis, bon, pourquoi est-ce que je ne peux pas essayer? Parce que je n'essaye pas pour moi-même. J'essaye pour les gens qui me disent, allez-y, nous allons vous soutenir.
Malheureusement, ça n'a pas marché.
Les circonstances aidant, il y a un parti politique qui venait de naître, et on citait aussi mon nom là-bas. Des amis m'ont dit, mais on parle de vous dans ce groupe-là. Allez un peu voir, je suis allé voir. C'était le MSR. On a discuté avec celui qui était responsable. Il m'a convaincu, et je me suis engagé, j'ai postulé pour la députation provinciale. Mais par après, nous allons découvrir que le parti-là était né dans la majorité présidentielle. Et nous nous sommes dit, nous, nos convictions, ce que nous avons toujours tenu comme langage dans la population, s'ils nous voient de ce côté-là, alors nous sommes vidés complètement. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai fait ma campagne dans un parti de la majorité, mais avec les gens du MLC. Nous avons fait notre campagne quand c'était le deuxième tour de la présidentielle. Et le député national de notre parti qui était venu à Mbujimayi, chargé de la campagne du président, avec tout ce qu'il avait amené comme matériel, il nous a réunis. Il a dit, bon, prenez, allez faire la campagne. Moi, je lui ai dit sans hésiter, je me vois incapable.
C'était un dilemme pour vous?
Oui, c'était vraiment un dilemme. Ça m'est déchiré à l'intérieur. Je me vois incapable d'exécuter cette tâche-là. J'ai fait la campagne accompagnée du député national de MLC. Quand on est allé aux urnes, notre parti a eu une place, un siège à la députation provinciale. Selon les règles du jeu à l'époque, c'est le candidat qui est le mieux coté, qui a le plus de voix, qui prend le siège. Et c'était moi, dans notre parti politique. Toutes les informations reçues, même des milliers de renseignements secrets. Même certaines personnes, à deux jours de la publication des résultats, qui rencontraient ma femme, « Ah, madame honorable, même votre mari est devenu député, offrez-nous à boire. »
Mais le fait qu'on vous ait vu aux côtés du MLC,
ça
a tout changé.
Oui, ça a tout changé. Et on a placé quelqu'un d'autre par les injonctions.
Ça vous a découragé de faire la politique
Un peu. Ça m'a découragé. Je me suis dit, si la politique c'est cela, alors c'est pas ça la politique. Parce que nous avions soulevé la question avec ceux qui étaient à la tête du parti dans notre province. Nous avait dit, non, nous ne sommes ni à gauche ni à droite, nous sommes au centre. Nous avons dit, ça c'est dangereux. Mais ceux qui connaissaient l'histoire du parti sont allés dire à ma femme, ah, on a vu tout le nom de ton mari sur la liste des MSR. Mais les MSR, c'est un parti de la majorité. Nous connaissons que c'est nous qui avons mis sur pied ce parti politique. Ma femme est venue me dire ça, j'ai dit, alors je suis vraiment ébranlé.
Et aujourd'hui, vous...
Aujourd'hui, je ne sais pas. Je n'ai plus tellement de position. J'ai dû changer de parti politique parce que je ne pouvais pas continuer dans ce parti politique. Et en 2011, je voulais postuler à la députation nationale. Mais mon diocèse, ceux qui géraient mon parti m'ont dit non, nous ne pouvons pas envoyer tout le monde à la députation nationale. Nous avons besoin de compétences comme vous, ici en province. Ils vont travailler pour la province.
Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ces élections n'ont pas encore été, organisées. Oui. C'était un plaisir, Isidore Barmanaï, de vous recevoir dans cette émission, de nous parler de vous, de votre expérience dans le domaine de l'éducation à la vie. C'est un domaine très important pour toute la population congolaise. Vous avez peut-être un dernier mot à dire à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi.
C'est d'abord vous dire merci à vous, Kelly. J'espère que les auditeurs sont peut-être satisfaits s'ils ont trouvé quelque chose là-dedans, tant mieux. Je vous dis merci. Je dis aussi merci aux auditeurs qui nous ont écoutés. Et puis, nous disons, les échéances arrivent. Mettons-nous debout pour sauver notre Congo.
Merci beaucoup Isidore Babanaï. Je rappelle que vous êtes directeur du centre éducation à la vie à Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Merci à Héritier Sidia Kala qui était à la prise de son micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.